Chapitre 35. À 7 heures du matin, quand le téléphone sonne, je suis profondément endormi. Je rêve que je suis au fond d'une grotte, une lampe de poche à la main, et je me penche pour chercher quelque chose dans le noir. Quelqu'un m'appelle depuis l'entrée de la grotte, d'une voix faible et lointaine. Je réponds distinctement, mais la personne n'a pas l'air de m'entendre et continue à crier mon nom. Je me redresse et me dirige vers la sortie, tout en me disant « Encore un peu et je le trouvais ». En même temps, je me sens soulagé de n'avoir pas trouvé ce que je cherchais. C'est à ce moment-là que je me réveille. Je regarde autour de moi, rassemblant lentement les morceaux épars de ma conscience. Je me rends compte que le téléphone est en train de sonner, celui de la réception. Un soleil vif pénètre à travers les rideaux de la chambre. Mademoiselle Saiki n'est plus à côté de moi. Je suis seul dans mon lit. J'enfile un t-shirt et un caleçon et me précipite afin de répondre au téléphone. Il me faut un moment pour arriver jusqu'à la réception, mais les sonneries n'ont pas cessé. « Allô ?
Tu dormais ?»
fait la voix d'Oshima.
Désolé de te réveiller si tôt un jour de congé, mais on a un petit problème. »
« Un petit problème ? »
« Je t'expliquerai en détail plus tard, mais il faut que tu t'installes ailleurs quelque temps. Je viens te chercher tout de suite. Alors, rassemble tes affaires. Quand tu m'entendras arriver, viens me rejoindre sur le parking et monte dans la voiture sans poser de questions. D'accord ?»«
D'accord. » Je retourne dans ma chambre, prépare mes bagages. Inutile de me presser, il ne me faut pas plus de 5 minutes pour rassembler toutes mes affaires. Je vais chercher les vêtements que j'avais lavés et mis à sécher dans la salle de bain. Fourre mes affaires de toilette, mes livres et mon journal intime dans mon sac à dos. Je m'habille, fais le lit, lisse les draps, regonfle les oreillers, arrange les couvertures, effaçant toute trace de mes ébats nocturnes avec Mademoiselle Saiki. Puis je m'assieds sur une chaise et pense à elle, qui était là il y a encore quelques heures. Je prends un petit déjeuner rapide, composé de cornflakes et de lait, lave mon bol et le range. Je me brosse les dents, je me lave la figure. Je suis en train d'inspecter mon visage dans le miroir quand j'entends un bruit de moteur dans le parking. Il fait un temps idéal pour ouvrir le toit, pourtant Oshima a laissé la capote fermée. Mon sac sur le dos, je m'avance jusqu'à la voiture, m'assieds sur le siège passager. Oshima arrime mon sac à l'arrière comme la dernière fois. Il porte des lunettes noires qui m'ont tout l'air d'être des Armani, et une chemise en lin rayé par-dessus un t-shirt à col en V, ainsi qu'un jean blanc et des Converse basses bleu marine. Une tenue de week-end. Il me tend une casquette bleu marine North Face.
« Tu as dit que tu avais perdu la tienne, non ? Prends celle-là, elle dissimulera un peu tes traits. »«
Merci, » dis-je. Je mets la casquette. Oshima inspecte mon allure, hoche le menton avec un air d'approbation.
« Tu as des lunettes de soleil ? »
demande-t-il. Je fais oui de la tête, sors mes révaux de ma poche, les mets.
« Cool !» fait Oshima en me regardant. « Retourne ta casquette pour voir. »
J'obéis et mets la visière derrière. Oshima hoche à nouveau la tête.
« Super ! On dirait un rappeur bien élevé !»
Puis il passe la première et appuie doucement sur l'accélérateur. « Où va-t-on ? »
« Au même endroit que la dernière fois. »«
La montagne près de Kochi ?»«
Oui, encore un long trajet. »
Il met la stéréo en marche. Un morceau de Mozart plein de gaieté. Je l'ai déjà entendu. La sérénade post-Horn, peut-être.
Tu en as assez de la montagne ?
Non, j'aime bien cet endroit. C'est calme et je peux lire tant que je veux.
Parfait, dit Oshima.
Quel est le problème au juste ? Oshima jette un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur, me regarde, puis reporte son attention sur la route.
Pour commencer, la police te recherche. Ils m'ont téléphoné la nuit dernière et cette fois, ils te recherchent très activement. Ce n'est plus du tout la même ambiance.
Mais j'ai un alibi, non ?
Bien sûr, Tu as un alibi imparable. Tu étais dans le Shikoku le soir du meurtre. La police n'en doute pas. Mais il reste la possibilité que tu aies eu un complice.
Un complice ? Je secoue la tête. D'où ont-ils sorti une idée pareille ?
Comme d'habitude, ils sont restés assez discrets. Insistant quand c'est eux qui posent les questions, moins bavards si on leur en pose. Du coup, j'ai passé toute la nuit sur Internet pour essayer de glaner des informations. Tu sais qu'il y a déjà plusieurs sites spécialisés sur cette affaire. Tu es célèbre. Le petit prince errant détient les clés du mystère.
Je hausse les épaules. Le petit prince errant ?
Malheureusement, comme toujours avec ce type d'informations, il est difficile de démêler le vrai du faux. Enfin, pour résumer, voilà ce que j'ai appris. La police recherche un homme d'une soixantaine d'années qui serait venu avouer le crime le soir même dans un poste de police près de la rue commerçante de Nogata. Il a dit qu'il venait de tuer quelqu'un du quartier à coups de couteau. Mais il a aussi raconté beaucoup de fadaises, si bien que le jeune policier de service l'a pris pour un gâteux et l'a renvoyé sans même l'écouter. Évidemment, le policier s'est souvenu de cette visite quand le crime a été découvert, et il a compris qu'il avait fait une erreur. Il n'avait relevé ni le nom, ni l'adresse du vieux. Comme il avait peur d'avoir des problèmes avec sa hiérarchie, il n'a rien dit sur le moment. Mais, pour une raison ou une autre, je n'ai pas réussi à savoir laquelle, la vérité a été découverte. Le policier a écopé d'une sanction disciplinaire. Il ne s'en remettra peut-être jamais, le pauvre.
Oshima rétrograde, dépasse une Toyota Tercel et se rabat rapidement.
Du coup, branle-bas général au commissariat pour retrouver l'identité du vieil homme en question. Je ne connais pas les détails, mais il s'agirait d'un handicapé mental léger, qui vit seul, grâce à une subvention des services sociaux et au soutien de sa famille. Seulement voilà, il a disparu de son domicile. Il paraîtrait qu'il est parti en stop pour le Shikoku. Un chauffeur de car se souvenait de quelqu'un correspondant à son signalement qui serait monté dans son véhicule à Kobe. Il se le rappelait bien parce qu'il s'exprimait d'une façon un peu particulière et racontait des trucs bizarres. Il était accompagné d'un jeune homme d'environ 25 ans. Tous deux sont descendus devant la gare de Tokushima. La police a retrouvé l'auberge où ils avaient passé la nuit et interrogé une femme de service. Ils auraient pris un train en direction de Takamatsu. Les déplacements de ce type semblent suivre les tiens. Vous êtes tous les deux partis de Nogata, arrondissement de Nakano, pour arriver à Takamatsu. Cela paraît trop curieux pour être une simple coïncidence. Alors, naturellement, la police soupçonne que vous auriez prémédité ensemble le meurtre de ton père. Cette fois, ce sont les inspecteurs du commissariat central de Tokyo qui se sont déplacés. Et ils sont en train de fouiller toute la ville. On va peut-être avoir du mal à leur cacher que tu as habité dans la bibliothèque. Voilà pourquoi j'ai décidé de t'emmener quelque temps à la montagne.
Un vieil handicapé mental qui vivait à Nakano ?
Ça te dit quelque chose ?
Je secoue la tête. Rien du tout.
D'après son adresse, il n'habitait pas loin de chez toi, à un quart d'heure à pied environ.
Mais enfin, un tas de gens habitent l'arrondissement de Nakano. Je ne connais même pas ceux qui vivent juste derrière chez moi.
L'histoire ne s'arrête pas là,
reprend Oshima en me lançant un petit coup d'œil.
Ce serait ce type qui aurait provoqué la pluie de maquereau et de sardines de Nogata. En tout cas, la veille, il a prédit au policier auquel il a avoué le crime que ça allait arriver.
Incroyable, dis-je.
Oui, vraiment. Et le même jour, il y a eu une averse de sangsue sur une aire d'autoroute entre Tokyo et Nagoya. On l'a lu dans le journal. Tu t'en souviens ?
Bien sûr.
Évidemment, la police a établi une corrélation entre ces différents événements et ce mystérieux vieillard. Car ils se sont produits sur son trajet.
La musique vient de s'arrêter. Un autre morceau de Mozart commence aussitôt après. Les mains sur le volant, Oshima hoche plusieurs fois la tête.
Tout cela suit un développement fort étrange. C'était assez bizarre depuis le début, mais là, ça passe l'entendement. Impossible de prévoir ce qui va arriver ensuite. Mais une chose est sûre, les événements semblent se rapprocher de plus en plus. Ton chemin et celui de ce vieil homme vont sûrement se croiser quelque part, non loin d'ici. Je ferme les yeux et écoute ronronner le moteur. Oshima-san, je ferais peut-être mieux de partir pour une autre ville. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas ce qui se prépare, mais quoi qu'il advienne, je refuse de causer davantage d'ennuis à Mademoiselle Saeki et à vous.
Où irais-tu?
Je ne sais pas. Si vous me déposez à la gare, je réfléchirai. Je pourrais prendre un train pour la première destination venue.
Oshima soupire. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis sûr que la gare de Takamatsu grouille de policiers à la recherche d'un adolescent d'une quinzaine d'années, grand, cool, chargé d'un sac à dos et de quelques obsessions.
Vous n'avez qu'à me conduire jusqu'à une gare un peu plus loin. Une qui ne soit pas surveillée.
Ce sera pareil. Ils te retrouveront, tôt ou tard.
Je me tais.
Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre toi. D'accord? Tu n'es même pas le suspect numéro un. Ok?
Je hoche la tête.
Ce qui veut dire que tu es encore libre. Et moi aussi. Je suis libre de t'emmener où je veux. Je n'enfreins aucune loi. Je ne connais même pas ton vrai nom, Kafka Tamura. Ne t'inquiète pas pour moi, je n'en ai pas l'air, mais je suis quelqu'un de très prudent. Je ne me laisse pas coincer si facilement.
Oshima-san.
Oui?
Je n'ai jamais prémédité d'assassiner mon père. Si j'avais voulu le tuer, je n'aurais pas demandé à quelqu'un de le faire à ma place.
Je sais.
Oshima arrête la voiture à un feu rouge, rectifie la position du rétroviseur. Il prend une pastille au citron, m'en offre une, que je mets dans ma bouche.
Et ensuite? Dis-je.
Ensuite quoi?
Vous avez dit qu'il fallait me cacher dans la montagne parce que la police me recherchait, pour commencer.
Cela suppose qu'il y a une autre raison à mon départ, non?
Oshima regarde un moment le feu, qui ne se décide pas à passer au vert. Il finit par dire
« La deuxième raison est moins importante que la première. »
« J'aimerais tout de même la connaître.
Il s'agit de Mademoiselle Saeki. »
Le feu passe au vert et il démarre, puis reprend.
« Tu couches avec elle, n'est-ce pas ?»
Je suis incapable de répondre.
« Ne t'inquiète pas, je ne te juge pas. J'ai de l'intuition et je m'en doutais, c'est tout. C'est une femme merveilleuse, pleine de charme. Elle est spéciale, pour toutes sortes de raisons. Elle est beaucoup plus âgée que toi, c'est sûr, mais la question n'est pas là. Elle a envie de faire l'amour avec toi? Qu'elle le fasse. C'est simple, je n'ai rien à redire. Si vous êtes bien, alors ça me va. »
Oshima fait tourner la pastille de citron dans sa bouche.
« Mais il vaut mieux que vous preniez un peu de distance tous les deux. Et je ne dis pas ça à cause de ce qui s'est passé à Nakano. »
« Pourquoi alors ?»«
Elle est dans une situation très délicate en ce moment. »«
Une situation très délicate ?»«
Mademoiselle Saeki ?»
commence Oshima, puis il cherche ses mots.
« Pour faire bref, elle est en train de mourir. Je le sais. Cela fait longtemps que je le sens. »
Je soulève mes lunettes de soleil et scrute le profil d'Oshima qui regarde droit devant lui, les yeux fixés au loin sur la route. Nous venons de nous engager sur l'autoroute pour Kochi. Cette fois, étonnamment, il respecte les limitations de vitesse. Une Toyota Supra fend l'air en nous dépassant.
Elle va mourir?
Vous voulez dire qu'elle a une maladie incurable? Un cancer? Une leucémie? Quelque chose comme ça?
Oshima secoue la tête.
Peut-être. Peut-être pas. Je ne connais pas exactement la nature de ses problèmes de santé. Peut-être qu'elle a une maladie de ce genre. Ce n'est pas impossible. Mais je pense plutôt à un mal-être psychologique, qui aurait davantage à voir avec le désir de vivre.
Elle aurait perdu le désir de vivre?
Oui. Elle a perdu le désir de continuer à vivre.
Vous croyez qu'elle va se suicider?
Non, dit Oshima. Simplement, elle va vers la mort. Doucement, mais sûrement.
Comme un train se dirige vers une gare?
Peut-être, dit Oshima.
Il s'interrompt et serre les lèvres avant de poursuivre.
« Et puis, Kafka Tamura, tu es arrivé. Frais comme un concombre, mystérieux comme le véritable Kafka. Vous avez été attirés l'un par l'autre et vous avez, si tu me permets cette expression désuète, engagé une relation.
« Et puis ?»«
Et puis c'est tout !» dit-il en lâchant un instant le volant.
Je secoue lentement la tête.
« Non, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que ce train, c'est moi. »
Oshima se tait un long moment. Et quand il parle enfin, il déclare
« C'est tout à fait ça. C'est ce que je pense, en effet. »
« D'après vous, c'est moi qui conduis la mort vers elle, » dis-je.
« Oui, mais ne te le reproche pas, loin de là. Je pense même que c'est bien.
Pourquoi ?» Oshima ne répond pas, mais j'entends sa voix dans le silence.
« C'est à toi de le découvrir. »
Ou alors, « La réponse à cette question est tellement évidente, tu n'as pas besoin de réfléchir. » Je m'enfonce dans mon siège, ferme les yeux et m'abandonne totalement.
Oshima-san, qu'y a-t-il ?
Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Est-ce que je dois avancer ou revenir en arrière ?
Comme Oshima ne répond pas, je lui demande
« Qu'est-ce que je dois faire ?»«
Rien !»
répond-il simplement.
« Rien du tout ?»
Il acquiesce.
« Rien ! C'est bien pour ça que je t'emmène à la montagne. »«
Mais qu'est-ce que je ferai une fois là-bas ?»«
Tu n'auras qu'à écouter le vent. C'est ce que je fais toujours. »
Je réfléchis à ce qu'il vient de dire. Oshima tend la main et la pose doucement sur la mienne.
« Ce qui est en train de se passer n'est pas ta faute, » dit-il, « ni la mienne, ni la faute d'une prédiction ou d'une malédiction, ni de l'ADN, ni de l'absurdité du monde, ni du structuralisme, ni de la troisième révolution industrielle. Si nous mourons et disparaissons, c'est parce que le monde repose sur un mécanisme d'anéantissement et de perte. Nos existences ne sont rien d'autre que les ombres projetées par ce principe. » Le vent souffle, mais, tempête déchaînée ou brise douce, il finit par décroître et disparaître. Le vent n'est pas un corps matériel. C'est juste un terme général pour désigner les déplacements d'air. Tends l'oreille, et tu comprendras cette métaphore.
Je serre la main d'Oshima dans la mienne. Sa main douce et chaude. Elle est délicate, élégante. Ni tout à fait féminine, ni tout à fait masculine.
Oshima-san,
dis-je, il vaut mieux que je m'éloigne un peu de Mademoiselle Saiki, n'est-ce pas ?
Oui, Kafka. Je pense qu'il est préférable de mettre de la distance entre vous. Il faut la laisser seule. Elle est intelligente et forte. Elle a longtemps enduré la solitude et elle vit avec des souvenirs pénibles. Il faut la laisser prendre ses décisions seule, au calme.
Moi, je ne suis qu'un gamin et je la dérange. C'est ce que vous voulez dire ?
Pas du tout, dit Oshima d'une voix douce. Tu as fait ce que tu devais faire, et cela avait du sens, pour toi et pour elle. Il faut lui laisser le soin de décider de la suite. Ce que je te dis peut te paraître dur, mais pour l'instant, tu ne peux rien pour elle. Tu dois aller dans la montagne. « Le moment est venu de faire ce que tu as à faire. »«
Faire ce que j'ai à faire ?»«
Tendre l'oreille, Kafka Tamura. Tendre l'oreille, immobile et attentif, comme si tu étais une palourde. »